الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين وبعد. Donc, nous continuons toujours dans le chapitre de At-Tahara, la purification, à partir du livre تأسيس الأحكام للعلامة أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. Donc, nous avons vu le premier hadith concernant Babul Hayb, les menstrues de la femme. Aujourd'hui, on va voir le deuxième hadith et la suite. Fayaqul al-mu'allifu rahimahullah ta'ala an Aisha radiyallahu ta'ala anha an umma habiba tastuhidat. أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة رواه الجماعة وأحمد. موضوع الحديث الغسل من الاستحاضة. Donc le sujet du hadith qu'on vient de lire, qui est un hadith rapporté par Aïcha, où Habiba, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'elle devait faire par rapport à sa al-istihada. Et on a vu, on a expliqué le cours dernier en détail ce que ce terme voulait dire et ce qu'il représentait chez les femmes, al-istihada. Donc, Habiba, qui a eu al-istihada durant 7 ans, Sab'a Sinin, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de ce problème, qu'est-ce qu'elle devait faire par rapport à la purification, à se purifier de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de se laver. فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. Et elle se lavait pour toutes les prières. Donc on dit laver ici, bien entendu, c'est la grande ablution, al-ghusl, la grande ablution. Donc elle se lavait pour toutes les prières, la grande ablution. Et ce hadith, il est rapporté par al-Jama'a ou Ahmed. Al-Jama'a, bien entendu, Al-Bukhari, Muslim, Ashab Sunan, l'imam, et ensuite l'imam Ahmed, Al-Jama'atu wa Ahmed. Donc, Habiba, qui est Habiba, le shir nous dit, « Hiya bintu Jahsh, ibn Ri'ab al-Asadi, ukht Abdullah ibn Jahsh. » Donc, c'est la sœur de Abdullah ibn Jahsh. Et Banat Jahsh, les filles donc de Jahsh, elles sont de trois. Il y a Zainab bintu Jahsh, qui est donc al-Mu'minin, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Habiba, et c'est celle qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de al-istihada, Habiba, et qui était elle, mariée à Abdurrahman ibn Auf. Et ensuite, Hamna, qui était elle mariée à Talha ibn Ubaidillah. Et les trois sœurs, donc les filles de Jahsh, toutes étaient touchées par al-istihada. Mais c'est Habiba qui était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander donc cette fatwa, qu'est-ce qu'elle devait faire pour se purifier, alors qu'elle est touchée de al-istihada durant 7 ans. Le shir'i nous dit, dans le sens général du hadith, amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Habiba hina sa'alathu amma yalzamuha fi istihadatiha an taghtasil fa kanat taghtasilu li kulli salah imma li anna amra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mutlaq fa fahimat min itlaqihi annahu li kulli salah aw anna dhalika تطوعا منها ou anna dhalika tatawwa'an minha. Ça, c'est un point important à comprendre. C'est que dans le sens général du hadith, Umm Habiba, elle a demandé qu'est-ce qu'elle devait faire par rapport à la purification concernant l'istihadah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de se laver tout en entier. Et à partir de là, Umm Habiba, elle se lavait, elle, toutes les prières, durant toutes les prières, ou pour toutes les prières. Elle faisait le rousse pour toutes les prières. Et donc, soit c'est ce qu'elle a compris du Amr, c'est-à-dire de l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yani un ordre absolu, mutlaq, ou alors qu'elle a fait cela tatawwa'an, c'est-à-dire qu'elle a compris que ce n'était pas un ordre au premier degré, mais qu'elle a fait, elle, cela tatawwa'an, c'est-à-dire d'elle-même, de manière surérogatoire. De manière surérogatoire. Et donc ici, il y a une différence. Il y a une différence entre comprendre que c'est un ordre absolu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors le faire, et donc le faire comme tel, ou alors le faire tatawwa'an, c'est-à-dire de manière surérogatoire. Alors qu'en réalité, ce n'est pas obligatoire pour toute prière de faire el-rusl. Nous allons voir, à partir du fiqh de ce hadith, que premièrement, la parole de Aïcha, naam, parce que c'est Aïcha qui rapporte avant tout le hadith ici, et qui expose ce qu'a demandé Umm Habiba et ce que faisait Umm Habiba. Donc c'est Aïcha ici qui pose bien, ou qui nous rapporte le hadith. An Aïcha radiallahu ta'ala anha, anna Umm Habiba. Elle nous rapporte donc ce qu'avait demandé Umm Habiba, ce que faisait Umm Habiba. Donc il nous dit le shir, yu'khad min qawli Aisha. Donc on va extraire de la parole de Aisha, fa amaraha an taghtasil, fa kana taghtasilu li kulli salah, anna l'ikhtisal li kulli salah kana ijtihadan min Umm Habiba. Lam ya'murha bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala hadha riwayatu al-athbat min ashab az-Zuhri, kal-Layth ibn Sa'd وابن أبي ذئب ويونس وعمر بن الحارث ومعمر والأوزاعي وإبراهيم بن سعد وابن عيينة وخالفهم محمد بن إسحاق وسليمان بن كثير فرووا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة ومع هذا فالواجب أن نرجع إلى الترجيح ومعلوم أن من تقدم ذكرهم أعلى فضلا وأكثر اتفاقا من ابن إسحاق وسليمان ابن كثير. طيب. La première chose qu'il faut comprendre, ici c'est important, la première chose qu'il faut comprendre par rapport à ce hadith, c'est que lorsque Aïcha, elle a rapporté l'acte de Umm Habiba, elle a rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Ikhtisal, se laver donc, la grande ablution pour toutes les prières, c'était un ijtihad de Umm Habiba. C'est un effort d'interprétation de Umm Habiba, celle qu'elle l'a compris comme cela. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de faire cela pour toutes les prières. Et dans ce hadith qui est rapporté par Aïcha, il y a plusieurs versions. Et ces versions, elles tournent autour de l'imam Az-Zuhri. C'est-à-dire donc que le point convergent dans la chaîne de transmission de ce hadith, c'est Az-Zuhri. Et que Ashab Az-Zuhri, c'est-à-dire les gens qui ont étudié et qui ont pris le hadith auprès de l'imam Az-Zuhri, qui lui rapporte ce hadith avec sa chaîne de transmission au-dessus, lui, il rapporte le hadith et ensuite vont rapporter de lui le hadith ses élèves. Tayyib. Et pour simplifier, et pour bien comprendre que par moment, il peut y avoir une divergence dans les versions du hadith qui sont rapportées. Par exemple, il va y avoir une personne, ici en l'occurrence à l'imam Zuhri, qui lui va rapporter un hadith. L'imam Zuhri, lorsqu'il rapporte ce hadith, « Yuhaddith al-nas, tayyib, Il rapporte ce hadith à ses étudiants, il va avoir plusieurs étudiants. Et ensuite, ces étudiants vont rapporter le hadith, une fois qu'ils l'ont appris de l'imam Az-Zuhri, à d'autres étudiants. Tayyib. Mais ces étudiants-là, il se peut que la manière dont ils ont rapporté le hadith, on va trouver une divergence. Et des moments, cette divergence, elle peut être contradictoire. Et donc, c'est à ce moment-là, on est obligé donc de faire un tarjih, de voir quelle est la version qui est la plus prépondérante, celle qui est la plus forte. Dans le cas où il y a, bien entendu, une contradiction dans les versions qui ont été rapportées par les élèves de l'imam Az-Zuhri. Si bien entendu il n'y avait pas de contradiction, et ça peut être par exemple un supplément qui est rapporté dans le hadith, alors il n'y a pas de problème à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Donc ici, je simplifie pour vous expliquer ce que dit le shir. Et donc, à partir de là, lorsqu'il y a une contradiction, et on est obligé donc de regarder quelle est la version la plus forte, on va se baser sur quoi ? On va se baser tout simplement sur le niveau des élèves de l'imam Zuhri. Car, يتفاوتون في الحفظ والإتقان. Les élèves, bien entendu, ils ont un niveau qui est différent entre eux. Ils ne sont pas égaux dans la mémorisation, dans la perfection, etc. Donc à partir de là, on va regarder s'il y a une version qui est rapportée par certains élèves et une autre version, bien entendu, contradictoire, qui est rapportée par d'autres élèves. On va voir par rapport au nombre et on va voir par rapport au niveau de mémorisation des élèves. Et lorsqu'on va s'apercevoir que ceux qui vont rapporter la version ou une des versions, que ceux-là, ce sont eux qui ont le plus haut niveau dans la mémorisation, tayyib, qui sont également restés le plus avec l'imam Zuhri, qui ont appris le plus de lui, et également qui sont les plus, qui ont le plus de perfection dans la transmission du hadith, exact, etc. Et que de l'autre côté, ceux qui ont rapporté l'autre version, qui est contradictoire, tayyib, qui ont un niveau moindre, qui sont un nombre moindre, tayyib, qui ont moins de perfection, moins, un niveau moindre en mémorisation, etc., alors automatiquement, à ce moment-là, la balance, elle va pencher pour qui ? Pour ceux donc qui sont les plus forts, qui ont le plus de mémorisation, le plus de perfection, qui sont restés le plus avec l'imam Zuhri, etc. Donc c'est comme ça que Al-Muhaddithun, que les savants spécialisés dans le hadith, ils font pencher la balance pour une des versions. Et c'est exactement ce que dit le shir ici. Et ceux qui ont rapporté la version, donc ici on est avec, bien entendu, le hadith de Aïcha concernant Al-Istihada, ceux qui ont rapporté la version où le prophète sallam n'a pas ordonné de se laver pour chaque prière, ce sont les élèves de Zuhri comme ou Ashab Zuhri, كاللايث بن سعد طيب كعمر بن الحارث كالأوزاعي كابن عيينة. Donc tout ça c'est des grands élèves de l'imam Az-Zuhri qui avaient une grande perfection en transmission, qui avaient un haut niveau dans la mémorisation, et on ne pouvait pas donc les mettre au même plan que Ibn Ishaq ou Sulayman ibn Kathir, qui eux ont rapporté la version où le prophète sallam a ordonné à chaque prière de faire la grande ablution. Donc voilà, en résumé, comment on comprend à ce moment-là que la version où le prophète sallam n'a pas ordonné de faire la grande ablution pour chaque prière, pour la femme qui a al-istihada, la métroragie, tayyib, c'est celle qui est retenue ici. C'est celle qui est retenue. Et que l'acte de Ummu Habiba, c'est un acte qu'elle a fait d'elle-même. C'est-à-dire donc, comme il a dit le shir, tatawwa'an, elle l'a fait de manière surrogatoire. Elle voulait le faire de manière surrogatoire, ou alors qu'elle a compris de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme telle. C'est-à-dire qu'elle a compris que c'était un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après ce que nous rapporte Aïcha. Donc c'est comme ça qu'on va le comprendre pour bien faire une différence entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ce qu'il lui a demandé de faire. Est-ce qu'elle, elle a compris ou est-ce qu'elle, elle a voulu faire de manière surérogatoire? Donc c'est clair pour dire en résumé ici qu'il n'est pas obligatoire de se laver pour chaque prière, de faire la grande ablution pour chaque prière, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné un ordre par rapport à cela, et que l'acte de Ummu Habiba reste propre à elle, comme elle l'a compris et comme elle l'a appliqué. Ensuite, il va nous dire, toujours donc, pour la question de ces deux versions qui étaient contradictoires, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ou pas ordonné ? إلا أن الأمر بالاغتسال قد روي من طريق أخرى يظهر من صنيع الحافظ في الفتح أنه أثبتها ومع فرض صحتها فالجمع حاصل بحمل الأمر بالغسل على الندب وحمل الرواية الصحيحين على الوجوب وأن أم حبيبة فعلت المندوب وهو ظاهر حديث حمنة حيث قال سآمرك بأمرين أيهما فعلت أو فعلتي أجزاء عنك إلى أن قال فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا الحديث فإنه أباح لها أحد الأمرين وهو الاجتزاء بالغسل الأول أو الجمع بين فريضتين بغسل واحد وأخبر بعد ذلك أنه أعجب الأمرين إليه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا مذهب الجمهور أنه لا يجب عليها الغسل إلا عند الطهر من الحيض وقال جماعة بوجوبه وهو ضعيف لما عرفت والله أعلم. Donc ici, ce qui est cité par le cheikh, pour compléter d'abord la version où il y a l'obligation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire al-ghusl pour toutes les prières, il dit qu'il y a une autre chaîne de transmission qui a été rappelée, et notamment par Ibn Hajar al-Asqalani fil Fath, donc l'explication de Sahih al-Bukhari, et que en apparence il l'a authentifiée. C'est-à-dire maintenant, on a une autre chaîne de transmission. C'est plus maintenant avec l'imam Zuhri, mais c'est avec une autre chaîne de transmission qui est différente et dont tous les rapporteurs sont fiqa, c'est-à-dire qu'ils sont fiables, et qu'on peut prendre d'eux le hadith donc rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si maintenant on dit donc que cette version elle est juste, tayyib, sachant que l'autre version ou l'autre hadith, il est également authentifié, celui où il n'y a pas l'obligation, alors il dit le shir tout simplement qu'on va comprendre ici que l'amr laissa à la zahiri, c'est-à-dire que l'obligation ici, ou que l'ordre plutôt, que l'ordre, l'amr, il n'est pas à son premier degré, mais on le comprend comme un adb. C'est-à-dire que c'est surérogatoire, vu qu'on a un hadith qui nous fait comprendre que ce n'est pas à son premier degré l'ordre. Tayyib. Donc à partir de là, on va comprendre que ce n'est pas une obligation et que ça reste dans al-mandoub, ce qui est surérogatoire. Et également, ce qu'on a vu dans le hadith de Hamna, radiallahu ta'ala anha, lorsqu'on a expliqué le hadith précédent, dans notre cours dernier, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait donné le choix entre de retarder al-dhuhr et d'avancer l'asr et de faire le ghusl pour donc ces deux prières. Donc on voit ici que c'est faire le ghusl pour deux prières. En l'occurrence ici al-dhuhr ou al-asr, avec un seul ghusl. Donc deux prières avec un seul ghusl. C'est pour ça qu'il dit le shir, qu'il a rendu licite deux choses. Abaha laha ahad al-amrin. Soit le ghusl, yani bil ghusl awwal, celui qu'on a vu au début, ou al-jam' bayna faridatan bi ghuslin wahid. ou le rousl pour deux prières, en regroupant deux prières. Voyez, et il avait informé que c'était ce qu'il préférait, le prophète sallam. Anu a'jabu al-amrayn ilayhi sallam. C'est-à-dire de faire un rousl pour les deux prières. Et c'est le madhhab de al-jumhur. C'est le madhhab de al-jumhur. C'est-à-dire donc que le rousl, il n'est pas obligatoire uniquement au moment عند الطهر من الحيض, au moment donc où la personne ou la femme elle se purifie ou elle doit se purifier de ses menstrues, c'est-à-dire que ses menstrues sont finies, donc elle revient en état de pureté et qu'elle doit donc se purifier par al-ghusl. Et même si certains ont dit que c'était une obligation, c'est-à-dire de faire le ghusl pour ce qui était de al-mustahaba, la femme qui est touchée par la métrorragie. Mais le shir nous rappelle que c'est une parole qui reste barif, qui reste faible, le fait de dire que c'est une obligation. Dans un premier temps, parce qu'on a vu dans le hadith et les versions, la version qui était la plus forte, et que dans l'autre hadith, avec une autre chaîne de transmission, que même si le hadith, ou si le hadith, on le considère comme authentique, alors il y a bien entendu la possibilité de regrouper entre ces deux hadiths et de dire que l'amr wa una les nadab. C'est-à-dire que l'ordre ici, il n'est pas à son premier degré, mais il reste à la nadab, c'est-à-dire il reste à son caractère surérogatoire, préférable, et non obligatoire. Donc ça, c'est pour comprendre donc l'acte de Ummu Habiba, qui faisait le rousl pour chaque prière alors qu'elle était en état de istihaba, qu'elle était touchée par la métrorragie. Le deuxième hadith d'aujourd'hui et qui est le troisième fi hadha al-bab, an Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahid kilana junub وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض متفق عليه. موضوع الحديث حكم تطهر رجل مع امرأته ومباشرته لها وخدمتها إياه وهي حائض. Donc dans ce hadith on va voir donc quel est le statut que l'homme, il se lave avec sa femme et qui donc, il pratique la grande ablution. C'est-à-dire, il fait sa purification avec la grande ablution alors qu'il se trouve avec sa femme dans le même endroit ou dans la même bassine, dans la même cuve, etc. Également, on va voir dans ce hadith que l'homme, il peut avoir un contact direct avec sa femme alors qu'elle est en état d'impureté à cause de ses menstrues. Et qu'elle également, elle peut être à son service alors qu'elle est en état d'impureté à cause également de ses menstrues. Dans ce hadith, Aïcha nous dit Kuntu radiyallahu ta'ala anha kuntu akhtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahid kilana junub. Le prophète et Aïcha, ils étaient tous les deux en état de janaba et ils se lavaient d'une même bassine. Et bien entendu, le lavage ici, c'était le lavage qui est pour se purifier de al-janaba. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, « Wa kana ya'muruni fa'attaziru fa'yubashiruni wa ana ha'ird » Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui faisait savoir et comprendre qu'il voulait donc sa femme pour un rapport. Alors, fa'attaziru, alors Aïcha, elle mettait donc un izar. Elle mettait donc un izar, et qui est donc ce tissu qui cache donc les parties intimes. Fayubashiruni wa ana ha'id. Et alors, à ce moment-là, le prophète sallam, il avait un contact direct avec elle, alors qu'elle était en état d'impureté à cause de ses menstrues. Ça, c'est la deuxième chose. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض متفق عليه. Et la deuxième chose, ou Arfon, et la troisième chose, il sortait la tête de la mosquée, donc il était à l'intérieur de la mosquée durant son irtikaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle. Et donc il sortait sa tête de la mosquée, et on savait que la mosquée elle était directement en voisinage avec l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tayyib, et donc à partir de là, lorsqu'il sortait sa tête, pas tout son corps, mais uniquement sa tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée. Pourquoi ? Pour que Aïcha, elle lui lave la tête. فَأَغْسِلُهُ أَنَا حَائِضٌ. Elle lui lave, elle le lave, Yanni. Et elle lui lave la tête. Naam, elle lui lave la tête, وَأَنَا حَائِضٌ. Et malgré cela, elle était en état d'impureté. Car elle était également ici, elle avait ses menstrues. Et malgré cela, donc, elle lui lavait sa tête au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que lui, il avait son corps, le reste de son corps dans la mosquée, et que donc il était en état de retraite spirituelle. Ça, c'est tout ce qu'on va pouvoir comprendre du hadith. Bien entendu, le terme fa'attaziru, donc le fait de mettre un izar, à la base, c'est attaziru, attaziru, akada. Il y a deux hamza. Il y a bien hamza sakina ba'd al-maftouha, à la wazn afta'il. والمباشرة dans le verbe فيباشرني معنى مساس البشرة, c'est-à-dire avoir un contact direct avec la peau, avoir un contact direct avec la peau, toucher la peau. Donc المعنى الإجمالي, ici le sens global de ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم أو عائشة رضي الله تعالى عنها, elle nous informe بما كانت تفعله مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره لتبين للناس جواز هذه الأمور الثلاثة. Donc elle nous informe de ce qu'elle faisait avec le prophète صلى الله عليه وسلم, et de par ordre du prophète, de par son ordre, elle nous a informé de cela, et pour mettre en évidence ce qu'il est permis de faire et qui regroupe trois choses. La première, أفادت أنها كانت تغتسل معه من الجنابة من إناء واحد. Donc, comme on l'a dit, se laver, faire la purification de l'état de Al-Janaba dans une même bassine, l'homme et la femme. Et que bien entendu, ils se touchaient, car automatiquement, c'est leurs mains se touchaient lorsqu'ils prenaient l'eau, etc. ثانياً أنها كانت إذا أراد ملاعبتها ومباشرتها وهي حائض تشد عليها إزارا بأمره فيباشرها. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il voulait avoir jouissance de sa femme et avoir un contact direct avec elle, alors qu'elle est en état d'impureté à cause de al-haïd, qu'elle a ses menstrues, alors elle mettait son izar. Elle s'habillait donc de son izar. Et à partir de là, et à ce moment-là, il avait un contact direct avec sa femme et pouvait jouir d'elle. Et la troisième chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il sortait sa tête de la fenêtre de la mosquée, et donc qui donnait directement sur l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'était en contact ou c'était avoisinant. فَتَغْسِلُهُ وَيَحَائِمُ. Donc elle le lavait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle était en état d'impureté à cause de ses menstrues. لَا يَمْنَعُهَا الْحَيْضُ مِنْ خِدْمَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. C'est-à-dire donc qu'elle était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que cela n'empêchait pas, c'est-à-dire que ses menstrues n'empêchaient pas qu'elle reste à son service et qu'elle donc fasse ces choses-là, comme le fait de le laver, etc. Maintenant, le fiqh. Lorsqu'on a bien compris ce hadith, qu'est-ce qu'on va comprendre au niveau de al-fiqh ? Ce qu'on peut en extraire. Il nous dit le shir, awalan, fil hadithi dalilun ala jawazi ikhtisal al-rajuli ma'amrati min ina'in wahid fi waqtin wahid. Bien entendu, On va comprendre et on va savoir à partir de ce hadith, car c'est une preuve, qu'il est permis que l'homme et la femme ils se lavent ensemble, en même temps et dans une même bassine. Deuxième point. فيه دليل على جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته والمرأة إلى فرج زوجها. C'est également une preuve que l'homme, il peut regarder le sexe de sa femme et que la femme, elle peut regarder le sexe de son mari. Et bien entendu, lorsqu'ils se lavaient, ils étaient nus et dans la même bassine, donc automatiquement, ils se regardaient et ils se voyaient tout en entier, ni de haut en bas. Donc à partir de là, on comprend que chacun regardait le sexe de l'autre. Et donc à partir de là, c'est permis. C'est permis que l'homme il regarde le sexe de sa femme et réciproquement. Et c'est réciproque. Thalithan. Le troisième point. Qad yuqal inna fil hadith dalilan على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة لأن اختلافه لابد أن يعقب اختلافها فيصدق عليه أنه تطهر بفضلها وعلى هذا فلابد أن يحمل النهي الوارد في السنن على الكراهة. طيب également ici un point qui est important, c'est lorsqu'il faisait, donc ici c'est une bassine, طيب, remplie d'eau, donc automatiquement Aïcha, lorsqu'elle se lavait, il y avait l'eau avec laquelle elle se lavait qui retombait donc dans la bassine. Et le prophète sallam, il utilisait cette eau-là. Donc à partir de là, on comprend que utiliser l'eau qui a déjà été utilisée par la femme, ici, c'est permis. C'est permis. Car automatiquement, l'eau qui a été utilisée par Aïcha, elle reste dans la bassine. Et cette eau-là, elle est utilisée également par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Donc, ici, c'est la permission. Et il nous dit le shir, par contre, ce qui a été rapporté dans les sunan, et qui est l'interdiction de faire sa purification du reste de l'eau d'autrui, et en particulier ici la femme, alors on va le comprendre que c'est détestable, mais que c'est permis. C'est-à-dire donc, on va comprendre que c'est détestable parce que l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prouve que c'est permis. Donc s'il y a eu un nahi de lui, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une interdiction, alors on la comprend comme étant quelque chose de détestable et pas une interdiction au premier ordre, au premier degré. Naam. Une interdiction au premier degré. Naam. Une interdiction au premier degré. Si, bien entendu, cela également est authentifié dans les sunan. Car il y a également plusieurs avis dans cela, plusieurs paroles des savants. Car l'authenticité, etc. Donc c'est ce que nous dit le shir en troisième partie. La quatrième ici, يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهَا وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَنَا حَائِضُ جَوَازُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضُ. Donc comme on a dit, à partir de ce hadith, également, il est permis d'avoir un rapport direct avec la femme, un contact direct avec la femme, qui est en état d'impureté à cause de ses menstrues, mais à condition de ne pas avoir un contact avec le sexe de la femme. Il va nous dire « وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَا » على جواز المباشرة فيما فوق السرة وتحت ركبة واختلفوا فيما بين السرة والركبة على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي. أحده المنع وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من السلف، والثاني الجواز وهو مذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري، والثالث التفصيل بقوة الشهوة وضعفها قوة الورع وضعفه والذي تدل عليه السنة كحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وحديث لكما دون الإزار الجواز مطلقا في غير الفرج وبشرط وجود حائل فيما قرب من الفرج والله أعلم. Donc ici, le cheikh nous dit, après donc avoir vu que c'était permis d'avoir un contact direct, il dit, les savants, ils sont tous d'accord sur cela, pour ce qui est de, au-dessus de, du nombril, donc à Surra, ce qui est au-dessus du nombril, donc à partir d'au-dessus du nombril, il est permis d'avoir donc un contact direct, wa tahta ar-rukba, et en dessous donc du genou. Donc, à partir du nombril, et au-dessus, et à partir de, du genou et en dessous. On peut avoir un contact direct. Et ils ont, donc ils sont tous d'accord par rapport à cela, mais ils ont divergé pour la partie qui se trouve entre As-Surra ou Ar-Rukba. Entre As-Surra ou Ar-Rukba, c'est-à-dire la partie qui se trouve en dessous du nombril et au-dessus du genou, en dessous du nombril et au-dessus du genou. Cette partie-là, il y a une différence des savants. Il y a une divergence chez les savants. Ils ont trois avis sur cela. Et ces trois avis, on les retrouve également chez les Shafi'ites, les Ashab Shafi'ites. Chez les Shafi'ites, on retrouve ces trois avis. Ces trois avis qui sont les suivants. Bien entendu, ils sont tous d'accord qu'il n'est pas permis qu'il y ait aucun contact avec le sexe. Tayyib. Mais ce qui se rapproche, donc on va dire le haut de la cuisse et le bas du ventre. Et non, c'est ce qui est en dessous du nombril et au-dessus donc de Ar-Rukba. Donc le premier avis, c'est que c'est interdit. En dessous du nombril et au-dessus Ar-Rukba du genou, c'est interdit. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik, Abu Hanifa, wa jama'atu min as-salaf. Donc Malik, Abu Hanifa et une partie des salafs. Une jama'a, un groupe des salafs. Le deuxième, Al-Jawaz. Le deuxième, Al-Jawaz, c'est-à-dire le deuxième avis, c'est que c'est permis. Wa wa madhhabu Ahmad wa Ishaq wa Daoud al-Zahiri. Taïb Ahmad, Ishaq, Ibn Rahouya wa Daoud al-Zahiri. Eux, ils ont dit que c'était permis d'avoir un contact. Un contact avec la peau qui se trouve en dessous donc du nombril et au-dessus de Ar-Rukba. Et le Thalith, il y a un tafsil, c'est-à-dire ici, ils ont donné donc, on va dire, un tafsil, une explication, dans le sens qu'ils ont donné des shurut, qu'ils ont donné des conditions, et que ces conditions sont par rapport à la force de la shahwa que l'homme il a. Voyez, par rapport donc également à la force qu'il a de se retenir. Donc si la personne, quelqu'un qui se retient, alors c'est permis. Si c'est une personne qui a peur et qui ne se retient pas, alors c'est pas permis. C'est-à-dire qu'il a peur qu'il ait ensuite qu'il a donc un contact avec le sexe. Donc ces trois avis des savants. Et le shir va nous dire « Walladhi tadullu alayhi sunna » yani ce que nous prouve la sunna, comme le hadith de qui est rapporté par Muslim, isna'u kulla shay'in illa an-nikah, c'est-à-dire faites ce que vous voulez sauf le nikah, c'est-à-dire le nikah et qui ici le rapport sexuel en lui-même, donc le contact et la pénétration entre les deux sexes, ça c'est le marna nikah ici. Donc isna'u kulla shay'in illa an-nikah, faites ce que vous voulez sauf ou faites tout sauf al-nikah. Et le hadith également, laka madun al-izar, c'est-à-dire tout est pour toi, donc tu peux jouir de tout sauf madun al-izar, tout ce qui est en dehors de l'izar, donc le tissu qui va protéger donc les parties intimes et qui va cacher les parties intimes, alors tout ce qui est en dehors de cela, tu peux en jouir. الجواز مطلقا في غير الفرج وبشرط وجود حائل فيما قرب من الفرج والله اعلم. C'est-à-dire qu'on va comprendre de ces deux hadiths et de ces deux lafzes الجواز مطلقا, que c'est permis de manière absolue, في غير الفرج, en dehors du sexe. Donc, c'est-à-dire, ça rejoint plus l'avis qui est le deuxième, Al-Jawaz, et qui est l'avis de l'imam Ahmed ou Ishaq ou Daoud al-Zahiri. D'après ces deux hadiths, Isna'u kulla shay'in illa nikah, laka madun al-izar. Mais à condition, bien entendu, qu'il y ait un ha'il, c'est-à-dire une chose qui vient empêcher tout contact avec le sexe de la femme, et qui est ici l'izar, ou alors, ou autre. Il y a ce qu'on appelle un ha'il, c'est ce qui va empêcher tout contact, que ce soit un tissu, que ce soit un habit, que ce soit une culotte, etc. Ce qui va empêcher donc d'avoir tout contact avec le sexe de la femme. Donc tout ce qui est proche du sexe de la femme. C'est la partie intime. Ça donc, c'est l'indication que nous donne le shir à partir des deux hadiths qu'il a cités. Khamisan, le cinquième point. Fihi jawazu istikhdam ar-rajul imratahu wa yahaid. C'est-à-dire donc, il est permis que l'homme demande service à sa femme alors qu'elle est en état d'impureté à cause de son, de ses menstrues, qu'elle a ses menstrues. Sixième point de jurisprudence de fiqh. يؤخذ منه أن خروج بعض جسد المعتكف لا يفسد اعتكافه قال ابن دقيق العيد ويقاس عليه من حلف لا يخرج من بيته فخرج منه بعض جسد أنه لا يحنث والله أعلم. Également, le sixième point qui concerne donc la dernière partie du hadith, c'est que la personne qui sort, qui fait sortir une partie de son corps de la mosquée, donc l'endroit où il fait la retraite spirituelle, cela ne lui annule pas sa retraite spirituelle. La yufsidu irtikafahu. Ça ne vient pas donc annuler son irtikaf, il reste complet son irtikaf. Le fait qu'il sort uniquement une partie de la mosquée, une partie de son corps, pas son corps tout en entier. Naam. Et c'est pour ça que Ibn Daqiq al-Aid, il dit, rahimallah, qu'on fait analogie à cela pour celui qui va jurer. Pour celui qui va jurer, qui va prêter serment. Et ce serment, il est en relation avec un acte, et cet acte-là, c'est de sortir de la maison. C'est-à-dire qu'il jure par Allah Azzawajal qu'il ne sortira pas de sa maison. Il jure par Allah Azzawajal qu'il ne sortira pas de sa maison. Il prête serment qu'il ne sortira pas de sa maison. Et donc à partir de là, si juste une partie de son corps sort de la maison, alors on ne peut pas dire qu'il est sorti totalement de la maison et donc il n'a pas à expier ce dont il avait juré de ne pas faire. La yahnath. Par contre, si il serait sorti tout son corps, non. Alors à partir de là, obligé d'expier ce qu'il avait juré de ne pas faire. Ça donc un qiyas qui est fait à partir de ce hadith. Il reste encore deux hadiths concernant Bab al-Hayd. On les laisse pour le prochain cours, Inch'Allah, et on aura fini ensuite le chapitre de la purification, et on va commencer par le chapitre de As-Salah. Donc, ce sera les deux derniers hadiths de également la pure de Al-Hayd et de At-Tahara, Kitab At-Tahara. Ici, on va donner une faïda, c'est que la femme, donc concernant les menstrues, c'est lorsque la femme, son sang de menstrue s'arrête, stop, et qu'elle n'a pas fait encore le roussel, bien entendu, pour qu'elle se purifie la femme et puis qu'elle commence à prier, etc. Il faut qu'elle se purifie avec la grande ablution, une fois que ses règles sont terminées. Et le qata'at dam, lorsque le sang ne coule plus. Et qu'est-ce qui lui est permis si elle n'a pas encore fait le roussel? Qu'est-ce qui lui est permis si elle n'a pas fait encore le roussel? il lui est permis as-siyam, c'est-à-dire qu'elle peut faire le jeûne même si elle n'a pas encore fait al-rusl. C'est-à-dire donc la femme, à titre d'exemple, son sang s'est arrêté de couler et donc elle n'a plus ses menstrues avant le fajr et qu'elle n'a pas fait le rusl, alors à partir donc du fajr ou après le fajr, si elle n'a pas fait encore son rusl, elle commence quand même son jeûne. Et c'est comme l'état de celui qui est en janaba. Celui qui est en état de janaba, c'est-à-dire par exemple une personne qui est en état de janaba, qui n'a pas fait encore son rusl, et qui malgré tout cela, le fajr s'est levé, donc a commencé le jeûne, et qui n'a pas eu le temps encore de faire de son rusl, mais il reste donc en état de janaba. Cette personne-là, il commence son jeûne. Il commence son jeûne, c'est-à-dire son état de janaba, d'impureté, ne lui empêche pas de jeûner. C'est pareil donc pour la femme qui n'a pas fait encore son rusl pour se purifier de ses menstrues. Et également un talaq, c'est-à-dire que l'homme, on sait qu'il ne lui est pas permis de divorcer sa femme alors qu'elle a ses menstrues. Et bien entendu, la grande question, c'est s'il la divorce, est-ce que le divorce il est compté ou pas? Ça c'est naam, une question qu'on n'aborde pas ici. Mais est-ce que la personne, il lui est permis de divorcer sa femme, que ce soit donc un divorce qui soit sunni, suivant la sunna, ou pas? C'est-à-dire à quel moment? Au moment où la femme elle a terminé ses menstrues, mais qu'elle n'a pas encore fait son rusl. Et donc, les savants, ils ont dit qu'il lui est permis, à l'homme, il lui est permis de faire at-talaq, une fois qu'elle a terminé ses menstrues, même si elle n'a pas fait encore son rusl. Donc, c'est deux choses qui sont prises en compte. Siyam ou at-talaq, lorsque la femme ne s'est pas encore lavée. Wallahu a'lam. طيب نعم نكتفي بهذا on s'arrête ici et on continuera donc le prochain cours les deux derniers hadiths de Kitab al-Tahara et de Bab al-Hayd inshallah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka